Chapitre 8. Martin Silenus, Sol Weintraub et le consul avancent lourdement dans les sables en direction du Sphinx, pendant que Braun Lamia et Fedman Kassad reviennent avec le corps du père Hoyt. Weintraub serre sa cape autour de lui pour abriter son bébé du vent de sable et de la tempête d'éclairs qui se déchaîne autour d'eux. Il regarde Kassad qui descend le versant de la dune, ses longues jambes noires et caricaturales sur le fond électrique du sable. Les bras de Hoyt pendent, ses mains se balancent à chaque pas et à chaque glissade de Kassad sur la dune. Silenus est en train de hurler quelque chose, mais le vent emporte ses paroles. Braun Lamia fait un geste en direction de la seule tente encore debout. La tempête a abattu ou arraché les autres. Tout le monde s'engouffre sous la tente de Silenus. Le colonel Kassad entre le dernier, en passant délicatement le corps aux autres. À l'intérieur, leurs cris se font entendre au-dessus des craquements de la toile en fibroplast et des déchirements de papier des éclairs.
« Mort !»
hurle le consul en écartant la cape dont Kassad a enveloppé le corps nu du prêtre. Le cruciforme luit d'une lumière rose. Le colonel désigne du doigt les clignotants à la surface du Medipack de la force fixé avec du tissu adhésif sur la poitrine du prêtre. Toutes les lumières sont rouges, à l'exception des nodules et filaments jaunes qui alimentent le système. La tête de Hoyt glisse en arrière. Et Weintraub aperçoit la suture qui maintient en place les bords irréguliers de la plaie sur toute la largeur de la gorge du prêtre. Il essaie de trouver son pouls, mais ne sent rien. Il se penche en avant pour écouter le cœur. Il n'entend rien, mais la crête du cruciforme est brûlante à côté de sa joue. Il se tourne vers Braun Lamia.
« Le Gritch ? Oui, sans doute, je ne sais pas !»
Elle montre le pistolet ancien qu'elle tient encore à la main.
« J'ai vidé tout le chargeur 12 coups sur je ne sais quoi !»«
Vous l'avez vu ?»
demande le consul à Kassad.
« Non, je suis arrivé 10 secondes après elle, mais je n'ai rien vu !»«
Et vos foutus gadgets de militaire à la con !»
demande Martin Silenus, recroquevillé dans un coin de la tente, presque dans la position du fœtus.
« Toutes ces conneries de matériel de la force n'ont rien enregistré !»«
Non !»
Le Medipack émet un grésillement urgent et Kassad défait une nouvelle cartouche de plasma de sa ceinture pour la glisser dans le logement du pack. Il s'accroupit sur les talons, la visière baissée, le regard tourné vers l'entrée de la tente. Sa voix est déformée par le haut-parleur de son casque lorsqu'il demande
« Il a perdu plus de sang que nous ne pouvons lui en fournir ici! Personne d'autre n'a apporté du matériel médical !»
Weintraub fouille dans son sac.
« J'ai ma trousse d'urgence !»
déclare-t-il.
« Mais j'ai peur que ce ne soit pas suffisant dans son cas !» Ce qui lui a tailladé la gorge n'a pas fait le détail.
Le Gritch,
chuchote Martin Silenus.
Peu importe,
dit Lamia, les bras croisés très fort autour de sa taille pour empêcher son corps de trembler.
Il faut faire venir de l'aide.
Elle se tourne vers le consul.
Il est mort, murmure ce dernier.
Même avec une infirmerie de bord, on ne pourrait pas le ramener à la vie.
Il faut essayer,
s'écrie Lamia qui se penche en avant pour agripper la manche du consul.
Nous ne pouvons pas l'abandonner à ces choses!
Elle fait un geste pour désigner le cruciforme rougeoyant sous la peau du mort. Le consul se frotte les yeux.
Nous pourrions détruire le corps! Avec le fusil du colonel!
Nous allons tous y passer si nous ne sortons pas de cette putain de tempête!
Hurle Martin Silenus. La tente est secouée de plus en plus. Le fibroplaste cogne la tête du poète à chaque rafale. Le crépitement du sable contre la toile ressemble au bruit d'une fusée en train de décoller dehors à quelques mètres.
« Appelez ce putain de vaisseau »
supplie-t-il.
« Appelez-le !»
Le consul rapproche son sac de lui, comme pour mieux garder le persoc qui s'y trouve. La sueur luit sur ses joues et sur son front.
« Nous pourrions nous mettre à l'abri jusqu'à la fin de la tempête dans l'un des tombeaux !»
propose Sol Weintraub.
« Le Sphinx, par exemple !»«
Foutue idée de merde !»
grogne Martin Silenus. L'érudit change de position dans l'espace exigu qu'il occupe et dévisage le poète quelques secondes avant de murmurer.
« Vous avez fait tout ce chemin pour venir trouver le Gritch, et maintenant qu'il s'est manifesté, vous allez nous dire que vous avez changé d'avis ?»
Les yeux de Silenus brillent sous son béret enfoncé.
« La seule chose que je dis, c'est qu'il faut faire venir ici ce putain de vaisseau, et tout de suite !»
Il n'a peut-être pas tort.
Reconnaît le colonel Kassad. Le consul se tourne vivement vers lui.
« S'il y a une chance de sauver Hoyt,
Il faut la saisir,
explique Cassade. Le visage du consul exprime la douleur.
Nous ne pouvons pas partir, dit-il. Nous ne pouvons pas partir maintenant.
C'est vrai, reconnaît Cassade. Nous ne pouvons pas nous servir du vaisseau pour partir. Mais Hoyt a besoin de l'infirmerie de bord. Et nous y serions à l'abri jusqu'à la fin de la tempête.
Sans compter,
intervient Brown Lamia,
que nous aurions peut-être aussi des renseignements sur ce qui est en train de se passer là-haut.
Elle agite le pouce en direction du sommet de la tente. Le bébé, Rachel, est maintenant en train de pousser des cris perçants. Weintraub la berce, il lui soutient la tête dans le creux de sa large main.
« Je suis d'accord, »
murmure-t-il.
« Si le Gritch veut nous trouver, il peut le faire aussi bien à bord du vaisseau qu'ici. Nous ne laisserons partir personne. »
Il touche la poitrine du prêtre.
« C'est horrible à dire, mais les informations que pourront nous apporter les installations médicales de bord sur la manière dont se comporte ce parasite peuvent être extrêmement précieuses pour le Retz. »
« Très bien, »
fait le consul. Il tire l'antique persoc de son sac, pose la main à plat sur le disque et prononce quelques mots à voix basse.
« Il vient ?»
demande Silenus.
« Il a enregistré l'ordre. Il faut rassembler nos affaires pour les transporter à bord. Je lui ai demandé de se poser juste à l'entrée de la vallée. »
Lamia est surprise de constater qu'elle pleure. Elle essuie ses larmes et sourit.
« Qu'est-ce qu'il y a de drôle ?»
demande le consul.
« Avec tout ce qui se passe ?»
murmure-t-elle en s'épongeant les joues du dos de la main.
« Tout ce que je trouve de mieux à me dire, c'est qu'une bonne douche sera la bienvenue. »«
Et pour moi, un bon verre !»
fait Silenus.
« Un abri contre la tempête !»
déclare Weintraub, dont le bébé tète maintenant un biberon. Cassade se penche en avant. Il passe la tête et les épaules à l'extérieur par l'ouverture de la tente. Il lève son arme et retire la sécurité.
« Les détecteurs ont enregistré quelque chose, »
dit-il.
« Quelque chose qui se déplace juste derrière la dune. »
La visière se tourne vers eux, renvoyant le reflet du groupe pâle et agglutiné autour du corps encore plus pâle de Lennar Hoyt.
« Je vais voir ce que c'est, »
ajoute-t-il.
« Attendez ici jusqu'à ce que le vaisseau arrive. »«
N'y allez pas !»
l'enjoint Silenus.
« On dirait un de ces putains de vieux holos d'épouvante où tout le monde s'éloigne un par un pour... Hey !»
Le poète se tait brusquement. L'entrée de la tente est un triangle de lumière et de bruit. Fedman Cassade a disparu. La tente est en train de s'écrouler. Piquets et points d'ancrage cèdent sous l'action des sables en mouvement. Blottis l'un contre l'autre, hurlant pour se faire entendre par-dessus les hurlements du vent, le consul et Lamia enveloppent le corps de Hoyt dans sa cape. Les voyants rouges du Medipack continuent de clignoter. Le sang a cessé de couler de la suture grossière en forme de mille pattes. Sol Weintraub installe son bébé de 4 jours dans le porte-bébé contre sa poitrine. Il l'abrite dans le creux de sa cape et s'accroupit dans l'entrée de la tente.
« Je ne vois pas le colonel »
s'écrie-t-il. Sous ses yeux, un éclair frappe les ailes déployées du sphinx. Brown Lamia s'avance jusqu'à l'entrée et soulève le corps du prêtre. Elle est étonnée de sa légèreté.
« Portons-le jusqu'au vaisseau »
dit-elle.
« Une partie d'entre nous reviendra chercher Cassade !»
Le consul enfonce son tricorne et remonte son col.
« Le vaisseau dispose de radars et de détecteurs de mouvement !»
déclare-t-il.
« Il nous renseignera sur l'endroit où se trouve le colonel !»«
Et le Gritch ?»
précise Silenus.
« N'oublions pas notre hôte !
Allons-y !»
fait Lamia en se redressant. Elle se penche en avant pour résister à la force du vent. Les pans de la cape de Hoyt battent contre elle et autour d'elle. Sa propre cape vole dans son sillage. À la lueur intermittente des éclairs, elle repère le sentier et prend la direction de l'entrée de la vallée, se retournant une seule fois pour voir si les autres suivent. Martin Silenus sort à son tour de la tente. Il porte le cube de Mobius de mastine et son béret pourpre se gonfle avec le vent. Il lance une bordée de jurons et referme vivement la bouche lorsque le sable s'y engouffre.
« Venez !»
crie Weintraub, la main sur l'épaule du poète. Sol sent le sable qui lui fouette le visage, s'incrustant dans sa courte barbe. Son autre main protège contre sa poitrine un bien infiniment précieux.
« Nous allons la perdre de vue si nous n'avançons pas plus vite !»
Il s'épaule pour avancer contre le vent. Le manteau de fourrure de Silenus ondoie tandis qu'il se tourne pour ramasser son béret tombé à l'abri d'une dune. Le consul sort le dernier. Il porte le paquetage de Cassade en plus du sien. Une minute après avoir quitté la tente, Il voit les piquets s'arracher, la toile se déchirer, puis le tout s'envoler dans la nuit au milieu d'un halo électrique. Il parcourt 300 mètres en chancelant, apercevant de temps à autre, devant lui, l'ombre des deux autres, perdant fréquemment son chemin, obligé de marcher en cercle, jusqu'à ce qu'il recoupe le sentier. Les tombeaux du temps sont visibles derrière lui lorsqu'il y a une légère accalmie et que les éclairs se succèdent rapidement. Il entrevoit également le sphinx qui brille toujours sous l'effet des chocs électriques répétés, et le tombeau de jade derrière lui, avec ses parois luminescentes. Encore plus loin, l'obélisque n'émet aucune lumière et se dresse comme une colonne de noir pur contre le mur de la falaise. Puis il y a le monolithe de cristal. Mais aucun signe, parmi tout cela, de Kassad, bien que les dunes mouvantes, le sable qui souffle et les éclairs soudains donnent l'impression que beaucoup de choses bougent. Le consul lève les yeux et voit maintenant l'entrée de la vallée et les nuages bas qui défilent au-dessus. Il s'attend à voir, d'un moment à l'autre, la flamme de fusion bleue de son vaisseau descendre vers eux. La tempête fait rage, mais le vaisseau a connu pire. Le consul se demande s'il n'est pas déjà là et si les autres ne l'attendent pas à sa base. Lorsqu'il atteint le col, le vent redouble ses assauts. Il voit les quatre autres blottis les uns contre les autres à l'entrée de la plaine évasée, mais aucun vaisseau n'est en vue.
« Vous ne croyez pas qu'il devrait être là ?»
crie Lamia à son approche. Il hoche la tête et se penche pour sortir son persoc. Weintraub et Silenus, derrière lui, lui font un rempart de leur corps contre le vent de sable. Le consul prend le persoc et regarde autour de lui en hésitant. La tempête lui donne l'impression de se trouver dans une vaste salle insensée, dont les parois et le plafond changent d'instant en instant, tantôt se redressant sur eux, tantôt s'éloignant. Le plafond monte et s'élargit comme dans la scène du casse-noisette de Tchaïkovski, où la salle et l'arbre de Noël grossissent sous les yeux de Clara. Le consul pose la main sur le disque, se penche en avant et chuchote quelque chose dans la grille audio. L'antique instrument lui répond sur le même registre. Les mots sont à peine audibles dans la tempête. Le consul se redresse et se tourne vers les autres.
« Ils l'ont empêché de décoller !»
Un murmure de protestation monte du groupe.
« Qu'est-ce que ça veut dire, empêcher ?»
demande Lamia quand elle voit que les autres se taisent. Le consul hausse les épaules et regarde le ciel, comme s'il guettait encore une flamme bleue.
« Il n'a pas eu l'autorisation de décoller du port spatial de Kitz. »
« Est-ce que vous ne nous aviez pas dit qu'il avait une putain d'autorisation de la reine-mère en personne, de Gladstone ?»
hurle Martin Silenus.
« Il a l'autorisation de Gladstone !»
confirme le consul.
« La force et les autorités du port le savent très bien !»«
Que s'est-il passé alors ?»
demande Lamia en s'essuyant le visage où les larmes de tout à l'heure ont tracé des sillons jaunes dans la croûte de sable. Le consul hausse les épaules.
« Gladstone a annulé son autorisation !» Il y a un message d'elle. Vous désirez l'entendre ?
L'espace d'une minute, personne ne répond. Après une semaine de voyage, l'idée d'être de nouveau en contact avec une personne extérieure à leur groupe est si incongrue qu'elle les laisse presque insensibles. C'est comme si le monde extérieur avait cessé d'exister, à l'exception des explosions qui continuent de se succéder dans le ciel nocturne.
Oui, déclare finalement Sol Weintraub. Nous voulons l'entendre.
Une soudaine accalmie dans la tempête a donné à ses paroles la force d'un coup de tonnerre. Ils se rassemblent autour du vieux père Soc, déposant le père Hoyt au centre du cercle, et s'accroupissent. Une petite dune commence à se former autour du corps. Les voyants sont tous rouges, à l'exception des moniteurs de mesure extrême, qui sont encore ambrés. Lamia insère une nouvelle cartouche de plasma dans le Medipack, et s'assure que le masque à osmose est bien fixé contre la bouche et le nez du père Hoyt pour empêcher le sable d'entrer et amener l'oxygène filtré.
« Allons-y » dit-elle.
Le consul fait tourner le disque. Le message consiste en une salve mégatrans enregistrée 10 minutes plus tôt par le vaisseau. L'air s'embrume des colonnes de données et du colloïde d'images sphériques qui caractérise les persocs datant de l'époque égyrienne. L'image de Gladstone est miroitante. Son visage est bizarrement déformé, de manière presque comique, par les millions de grains de sable qui soufflent à travers la projection. Même amplifiée au maximum, sa voix est à moitié couverte par les bruits de la tempête.
« Je regrette !»
déclare l'image familière à tous.
mais je ne puis, pour le moment, autoriser votre vaisseau à se poser près des tombeaux. La tentation de vous en aller serait trop grande, et l'accomplissement de votre mission doit l'emporter sur toutes les autres considérations. Comprenez bien que le sort de plusieurs mondes repose entre vos mains. Soyez assurés que tous mes espoirs et toutes mes prières vous accompagnent. Terminé.
L'image se replie sur elle-même, puis se dissout. Le consul, Weintraub et Lamia continuent de fixer en silence l'endroit où elle se trouvait. Martin Silenus se lève, lance une poignée de sable à l'endroit occupé quelques secondes plus tôt par le visage de la présidente et hurle.
« Bordel de merde d'enculé de politicienne paraplégique mentale de mes deux !»
Il donne un coup de pied dans le sable. Tous les regards se sont tournés vers lui.
« J'espère que ça vous a fait du bien !»
lui dit Lamia. Silenus agite les bras d'un air écœuré et s'éloigne, donnant toujours des coups de pied dans les dunes.
« Il n'y a rien d'autre ?» demande Weintraub au consul.
« Non. » Braun Lamia croise les bras et regarde le père Sock en fronçant les sourcils.
« Vous nous avez expliqué comment ça marche, mais j'ai oublié. Comment faites-vous pour passer au travers des interférences ?»«
Faisceau étroit jusqu'à un satcom de poche que j'ai placé quand nous sommes descendus de l'Yggdrasil, »
explique le consul. Lamia hoche la tête.
« Donc, lorsque vous faisiez vos rapports, vous avez juste envoyé de courts messages au vaisseau qui les a relayés par Slav Megatrans jusqu'à Gladstone. Et vos correspondants extro.
C'est cela.
Le vaisseau ne peut pas décoller sans autorisation,
demande Weintraub. Il est assis, les jambes droites, les mains nouées autour de ses genoux dans une posture classique d'épuisement total. Sa voix est d'une lassitude extrême.
Non, répond le consul. Lorsque Gladstone a signifié son interdiction, la force a installé un champ de confinement de classe 3 au-dessus de la fosse où nous avons garé le vaisseau.
« Contactez-la !» demande Braun Lamia. « Expliquez-lui la situation !»«
J'ai déjà essayé !»
fait le consul en reprenant le père Sock pour le ranger dans son sac.
« Elle ne répond pas. J'avais déjà signalé dans la première salve que le père Hoyt était grièvement blessé, qu'il lui fallait de l'aide et que nous avions besoin de l'infirmerie de bord.
« Blessé !»
répète Martin Silenus, qui revient prendre sa place dans le groupe.
« Mon cul !» Notre ami le Padre est aussi raide mort que le chien de Glennon Height.
Il agite le pouce en direction du corps enveloppé dans sa cape. Tous les voyants sont rouges. Braun Lamia se penche pour toucher le front du prêtre. Il est froid. Le biomoniteur de son père Sock et le Medipack lancent des messages aigus annonçant la mort cérébrale imminente. Le masque à osmose continue d'insuffler de l'oxygène pur dans ses poumons. Les stimulateurs du Medipack continuent d'exciter le cœur et les poumons, mais les impulsions aiguës se transforment bientôt en un signal plat continu et sinistre.
« Il a perdu trop de sang !»
déclare Sol Weintraub. Les yeux fermés, le front baissé, il touche la tête du mort.
« Splendide !»
s'écrie Silenus.
« Splendide !» D'après le putain de récit qu'il nous a fait lui-même, nous allons maintenant assister à sa décomposition, puis à sa recomposition par ce foutu machin en forme de crucifix. Il en a même deux, mes amis! L'assurance rêvée pour la résurrection, pour ceux qui sont assez riches pour se payer ça. Mais qu'est-ce que nous allons faire, tous, quand nous allons le voir se relever comme un putain de fantôme du papa d'Hamlet au cerveau à moitié pourri?
La ferme!
Lui dit Braun Lamia. Elle est en train d'envelopper le corps de Hoyt dans un carré de toile imperméable qu'elle a apporté de la tente avec elle.
« La ferme, vous-même !»
hurle Silenus.
« Il y a déjà un monstre qui rôde dans les parages. Le vieux Grendel est là, qui aiguise ses griffes pour son prochain repas. Vous voulez vraiment que le zombie de Hoyt se joigne à la fête ? Rappelez-vous comment il a décrit les Bicuras. Pendant des siècles, leurs cruciformes ont assuré leur résurrection et le résultat ressemblait à un tas de lichens ambulants. Vous tenez vraiment à avoir un truc comme ça pour compagnon de voyage ?
Deux trucs comme ça,
fait le consul.
Un ?
Demande Silenus en pivotant brusquement. Il perd l'équilibre et se retrouve sur les genoux près du corps. Il se penche vers le vieil érudit.
Qu'est-ce que je viens d'entendre ?
Il y a deux cruciformes.
Rappelle le consul.
Le sien et celui du père Paul Duré. Si ce qu'il nous a raconté à propos des Bicuras est exact, il y aura deux résurrections.
Jésus à béquille.
s'exclame Silenus en se laissant retomber dans le sable. Brown Lamia a fini d'envelopper le corps du prêtre. Elle le contemple un bon moment.
« Je me souviens de ce que disaient les notes du père Duré sur l'un des Bicuras, nommé Alpha, »
murmure-t-elle.
« Mais je n'ai jamais compris comment une telle chose était possible. La loi de la conservation de la masse doit bien jouer quelque part. »«
Il y aura deux zombies de petite taille, »
lui dit Martin Silenus. Il drape son manteau de fourrure plus serré autour de lui et donne un coup de poing dans le sable.
« Il y a tant de choses que nous aurions pu apprendre si le vaisseau était ici, »
déclare le consul.
« L'autodiagnostic nous aurait... »
Il s'interrompt et fait un grand geste.
« Regardez, le vent de sable est moins fort.
La tempête va peut-être... »
Des éclairs illuminent le ciel et la pluie se met à tomber. De grosses gouttes glacées leur fouettent le visage avec plus de force que le sable précédemment. Martin Silenus se met à rire.
Dire que nous sommes dans un putain de désert !
Hurle-t-il à la face du ciel.
Nous finirons probablement tous noyés !
Il ne faut pas rester ici,
leur dit Sol Weintraub. Le visage de son bébé est visible dans l'ouverture de sa cape. Rachel pleure. Sa tête est congestionnée. Elle a vraiment l'air d'un nouveau-né.
La forteresse de Kronos ?
Suggère Lamia.
Elle n'est qu'à 2 heures.
Trop loin,
dit le consul. Nous bivouaquerons dans l'un des tombeaux. Le rire de Silenus éclate de nouveau. Il récite.
Quels sont ceux-ci qui viennent au sacrifice? À quel autel verdoyant, ô prêtre mystérieux, mènes-tu cette génisse qui mugit aux cieux? Les flancs soyeux, tout parés de guirlandes.
« Ça veut dire oui ?»
demande Lamia.
« Ça veut dire pourquoi pas ?»
rugit Silenus en riant.
« Pourquoi ne pas faciliter la tâche à notre muse si elle nous cherche ? Nous pourrons toujours regarder notre compagnon se décomposer pour passer le temps. Combien de jours fallait-il d'après le récit de Duré pour qu'un Bicura rejoigne le troupeau après avoir été interrompu par la mort de sa rumination bovine ?»«
3 jours. »
répond le consul. Martin Silenus se frappe le front du talon de la main.
« Bien sûr que je suis bête. Comment n'y ai-je pas songé plus tôt ? 3, ça colle parfaitement avec le Nouveau Testament. En attendant, juste au cas où notre grand méchant Gritch voudrait prélever une partie du troupeau, vous croyez que ça dérangerait le padré si je lui empruntais l'un de ses cruciformes ? Il en a un de trop, vous comprenez ? « Allons-y !»
coupe le consul, la pluie coulant au bout de son tricorne en un filet continu.
« Nous nous abriterons dans le Sphinx jusqu'à demain matin. Je m'occupe de porter l'équipement de Cassade et le cube de Mobius. Brown, vous prendrez les affaires de Hoyt et le paquetage de Sol. Tenez le bébé bien au chaud, Sol. »«
Et le padré ?»
demande le poète.
« C'est vous qui vous en chargerez !»
murmure Lamia en se tournant vers lui. Martin Silenus ouvre la bouche, voit le pistolet dans la main de Lamia, hausse les épaules et soulève le corps pour le mettre sur son épaule.
« Qui portera Cassade quand nous l'aurons trouvé ? »
demande-t-il.
« Naturellement, il y a des chances pour qu'il soit en plusieurs morceaux, ce qui devrait nous faciliter la... »«
Taisez-vous !»
fait Lamia d'une voix très lasse.
« Si je suis obligé de vous tuer, cela nous fera encore un paquet de plus à porter. Avancez !»
Le consul en tête, Weintraub derrière lui, Silenus se traînant quelques mètres plus loin, Brown Lamia fermant la marche, le groupe descend une fois de plus le col qui conduit dans la vallée des tombeaux.